que consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure.
Je vous proposais de faire Midrash à partir des icônes. Si je vais trop vite, le Midrash, c'est l'interprétation. L'interprétation du dit de Dieu ou de la voix divine pour trouver le sens. Alors, je vais commencer par vous proposer, c'est une icône qui est connue, c'est l'icône où Moïse reçoit les tables de la loi du Sinaï. Il y a deux icônes qui se trouvent au monastère de Sainte-Catherine qui sont très semblables. Et ce qu'on voit, c'est un rouleau blanc ou une pierre blanche où il n'y a rien d'écrit. Et on dit toujours, c'est la Torah, non pas la Torah de Dieu, mais la Torah de Moïse. Parce que c'est à Moïse à interpréter le dit de Dieu. Alors Bernard de Clairvaux disait, le Verbe de Dieu s'est rétréci dans l'humanité du Christ, puis dans le compris des apôtres, puis dans la parole écrite, puis dans la traduction. Et la démarche midrashique, c'est de faire le chemin inverse pour retrouver le dit de Dieu, ou la voix de Dieu. Parce que déjà le dit de Dieu s'est rétréci à partir de ce que Moïse a compris, de ce que Moïse a transmis à Josué, qu'il a transmis aux prophètes, qu'ils l'ont transmis aux sages, etc., etc. Donc, cette démarche de faire Midrash, je dirais, c'est la Torah orale. C'est la Torah orale, il y a cette Torah écrite. La Torah, ce n'est pas nécessairement la loi, hein. La Torah, c'est l'enseignement. La Torah qui est la Torah orale avec le Talmud, avec tout ce qui est au fond discussion, commentaire. Je ne vais pas entrer dans tous les détails de la Mishnah, etc., parce que on peut le faire éventuellement après, mais parce que ça risque d'être long. Tout ce qui est commentaire autour de la parole. Alors, il y a les mots, il y a la parole, et puis il y a la voix ou le dit de Dieu. J'ai oublié de dire au départ que je n'allais pas parler d'Annick de Souzenel, parce que tout le monde ici est beaucoup plus calé que moi au sujet d'Annick de Souzenel, donc je n'en parlerai pas. Alors, il y a les quatre niveaux d'interprétation, je ne sais pas si faut entrer là-dedans, ou bien on les connaît, bon, je ne vais pas pour le moment pas entrer. Alors, je vais prendre une série d'icônes pour voir un petit peu comment on peut, ce que l'icône... Parce que, bon, chacun a écrit une icône et quelque part a écrit une icône en fonction de son propre vécu, en fonction de sa propre relation, soit à telle parole qui est écrite sur le bois de l'icône, soit à partir de telle relation... qu'il a avec le divin. Dans le Midrash, donc c'est un peu ce phénomène identique, dans l'icône, pardon, c'est un peu ce phénomène identique que dans le Midrash, on interprète pour créer, et c'est un peu phénomène identique parce que c'est une perspective inversée, parce que c'est une icône ou un texte qui nous parle ou qui nous regarde. Il y a la technique qui utilise l'or, et donc cette lumière qui nous ouvre à l'infini du divin, comme la parole nous ouvre à l'infini du divin et au dit de Dieu. Par exemple, pour vous donner un exemple, quand Sarah a parlé à Abraham du fait qu'elle était stérile et que peut-être que Abraham pourrait avoir des relations avec sa servante, ce que Sarah a dit, ce qu'elle avait vraiment au fond du cœur, son désir, c'était d'avoir un enfant. C'était pas nécessairement que Abraham aille coucher avec sa servante, mais ce qu'Abraham a entendu, c'est qu'elle pouvait avoir son enfant par sa servante. Donc au fond, c'est un peu retrouver ce désir ou cet appel profond à travers le fait de chercher le sens, de creuser la parole, que c'est faire Midrash. Alors, je vais commencer par une première icône qui est l'arbre de Jessé, qui est représenté très souvent soit sous forme d'icône, soit sous forme de fresque. Quand nous voyons, il y a deux évangélistes qui reprennent la généalogie de Jésus, donc représentée par l'arbre de Jessé. Soit Matthieu au premier chapitre, soit Luc au troisième chapitre, mais c'est dans l'ordre inverse. Matthieu parle des enfantements de Yeshua, Messie, fils de David, fils d'Abraham. Tandis que Luc, il remonte à partir de Jésus jusqu'à Adam et Elohim. C'est vraiment l'enracinement de Jésus dans cette histoire d'Israël. Alors, c'est ce qui est très caractéristique quand vous reprenez cette généalogie, c'est que ce sont tous des... Il y a les noms des rois, évidemment, mais ce sont tous des noms d'hommes qui engendrent. Sauf quatre femmes. Il y a Tamar, Judas engendra de Tamar. Alors, il faudra aller voir qui est Tamar. C'est une histoire un petit peu étonnante. On pourra en reparler.
Un peu scabreuse.
Il y a Boaz qui engendra Ruth. Ruth qui est une Moabite. Et suite à toute une histoire racontée dans Josué, les Moabites sont exclus du peuple d'Israël. Mais Ruth est tout de même incluse dans toute cette généalogie, ce qui est assez étonnant. Il y a David qui engendre de la femme d'Uri. Or, c'est un adultère, que je sache. Et puis, il y a Salomon qui fait enfanter Boaz de Rahab. Rahab qui est une prostituée, que vous retrouvez dans le livre de Josué. Il y a une autre approche de cette généalogie qui est une approche symbolique. 26, bon, je crois qu'il y en a plusieurs qui connaissent la gématria, c'est-à-dire que chaque lettre hébraïque représente un poids, donc un chiffre. Bon. Le tétragramme, c'est 26, c'est-à-dire 2 fois 14. 2 fois 14.
Il n'est pas fort en maths.
Mais non. C'est bien clair que dans le texte, c'est mis il y a 14 générations. C'est clairement mis dans le texte. Il y a 14 générations.
Si, c'est pas quand même 2 fois 14.
Ah oui, c'est vrai, ça, tiens. Je ne sais pas. Je recopie. Enfin, soit. Il y a quelque chose de qui cloche dans ma tête. Je vais laisser tomber le tétragramme. Mais il y a 14 fils de Jacob. Si on compte les fils et petits-fils de Jacob, il a eu 14 fils, comme on dit, de Rachel. L'autel, je fais référence aux 14 générations. Hein, depuis. L'autel a 14 coudées en largeur et en longueur. Quand on reprend le livre des nombres, la date de Pessah, donc de la Pâque juive, c'est le 14 Nissan. Et quand on reprend le livre d'Esdras, la date de Pâque, Pessah, est fixée au 14e jour du premier mois. Donc il y a tout de même toute cette symbolique du chiffre 14. il y a 248 prescriptions positives. On aboutit 2 plus 4 plus 8, 14. 365 prescriptions négatives, on arrive au même chiffre, 14. Et la main, puisqu'ici on a fait un petit peu d'exercice physique, comporte 14 phalanges. Et à chaque phalange correspond une lettre, donc une des lettres hébraïques qui a, selon la Torah orale, qui a créé le monde.
Là, on retrouve les 28.
On retrouve les 28.
28
oui.
Lettres.
Oui. Oui.
2 fois 14.
Et alors, on dit que Jacob, qui est devenu Israël, a étudié pendant 14 ans. Ça, c'est toujours la Torah orale, donc c'est la tradition rabbinique. Il a étudié la Torah pendant 14 ans. Il a travaillé chez son beau-frère Laban pendant 20 ans. Et il a mis 14 ans avant d'épouser Rachel. Et il a 14 fils et petits-fils. Donc, je trouve que c'est étonnant de retrouver ce chiffre 14 dans la généalogie de Jésus. Alors, il y a deux icônes qui sont évidemment très connues, qui sont l'icône du baptême de Jésus et l'icône de la transfiguration. L'icône de la transfiguration, il y a deux personnages de la Bible hébraïque, Élie, dont Hubert a parlé, et Moïse. Ce sont deux prophètes qui ont vu Dieu. Souvent, on parle de Moïse comme un prophète aussi. Ce sont deux prophètes qui ont vu Dieu et qui ne sont pas morts. Ce sont deux personnages bibliques qui ont disparu.
Moïse est mort, mais on ne l'a pas vu mourir.
Oui, mais qui ne sont pas morts après avoir vu Dieu.
Ah, d'accord. Oui,
puisque Moïse, en montant au Sinaï, était en face à face, d'après la tradition, avec le divin. Et maintenant, je ne sais plus ce que j'allais dire. Oui, on ne sait pas où ils sont enterrés. Élie a disparu dans un char, et Moïse, on sait qu'il n'a pas vu la terre promise, mais on ne sait pas où il est enterré. Alors, ce sont deux. Et Moïse parle de la part de Dieu, oui. Et Élie revient régulièrement dans toute la célébration du Shabbat et la célébration de la circoncision. Il y a toujours, souvent, pas dans toutes les synagogues, mais souvent le siège d'Élie. Et il revient aussi dans la célébration de la Pâque, où il y a le siège qui est réservé à Élie, qui reste un siège vide, et le verre, comme si on attendait à la fin de la fête de la Pâque le retour d'Élie. Et dans les textes de l'Évangile aussi, il est plusieurs fois posé la question à Jésus ou à Jean-Baptiste, es-tu Élie qui doit revenir ? Donc il y a cette, je dirais, parallèle entre ces différents personnages et Jésus. Élie aussi est un prophète qui a fait des miracles, un peu comme Moïse, puisque Élie a fait pleuvoir à un certain moment suite à la sécheresse. Donc, il peut, quelque part, modifier l'ordre de la nature. Et Moïse, il a fait passer la mer rouge. Élie aussi fait passer le Jourdain. Donc, il y a une similitude à ce niveau-là avec Jésus, qui lui aussi a fait des miracles. Élie, quand il était chez la veuve de Sarepta, a fait des miracles. A fait le miracle de la multiplication des pains, du pain, puisque la veuve de Sarepta n'avait plus qu'une fiole d'huile et un morceau de pain pour elle et son fils. Il a fait un miracle aussi de la résurrection du fils de la veuve. Donc, encore parallèle avec Jésus. Alors, vous surveillez l'heure, parce que moi j'ai beaucoup à dire, donc... Alors, dans ces deux icônes de la transfiguration et du baptême de Jésus, on retrouve un petit peu la même, je dirais, la même configuration, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté, évidemment, Jean-Baptiste qui baptise Jésus dans l'eau, et trois anges, ou quatre anges, ou cinq anges, ça dépend d'une icône à l'autre, et puis un signe comme quoi l'Esprit descend sur Jésus et la parole se suit, celui-ci est mon fils bien-aimé, etc. Dans l'icône de la transfiguration, on voit la même configuration, l'Esprit qui descend sur Jésus. Alors, je vais rejoindre à ce niveau-là un vocabulaire qui est le vocabulaire Messie, Christos, Christ. Et le Messie, dans la tradition rabbinique et la tradition juive, c'est celui qui est oint.
Mashiach.
Oui, Mashiach, qui est celui qui est oint et qui est chargé d'une mission par le divin. Dans Luc 23, c'est aussi le roi des Juifs désigné par Dieu. Tous les rois dans la Bible hébraïque ont reçu l'onction. On en parle particulièrement pour David qui reçoit l'onction du prophète Samuel, mais les rois reçoivent une onction. Alors, dans certains commentaires, on a fait le parallèle entre l'onction d'huile reçue par les rois et l'Esprit Saint qui descend comme une onction d'huile sur Jésus. Donc, posons-nous la question, on peut se poser la question, quelle est la nature de cette onction reçue par Jésus ? Dans Isaïe, on retrouve que il y a l'Esprit divin qui se déversera sur lui pour oindre le Messie. Et que le Messie se reconnaîtra à la descente sur lui de l'Esprit Saint. Et dans le texte des Hébreux, on dit que c'est l'onction qui inaugurera la relation privilégiée du caractère filial avec Dieu. C'est dit aussi dans un psaume. Dans la tradition hébraïque, les rois sont considérés comme les fils de Dieu. Et l'onction sanctionnait cette relation filiale. C'est dit dans le livre de Samuel, deuxième livre de Samuel. Bon, je ne vais pas aller plus loin au niveau de ces deux icônes. Une autre icône, c'est l'icône de la Samaritaine. C'est que l'icône de la Samaritaine est très interpellante et très importante. Elle est malheureusement moins souvent représentée. Dans le chapitre 4 de Jean, Jésus dit à la Samaritaine, « Si tu savais le don de Dieu et l'eau vive qu'il peut te donner. » Tu demanderais l'eau vive, enfin, je ne vais pas reprendre tout le texte. Et la Samaritaine lui répond, mais tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Elle ajoute, serais-tu plus grand que notre père Jacob ? Alors, on se dit, mais qu'est-ce que Jacob vient faire là-dedans ? Alors, nous voyons que, bon, il y a beaucoup de traditions juives qui sont liées au thème de l'eau. Au niveau de Jacob, un premier midrash nous dit « C'est pour Abraham que les eaux sont montées à la bouche d'un puits pour la première fois. » Dans le chapitre 21 de la Genèse, au moment de la querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers d'Abimélec. Il y a une alliance à ce moment-là qui est nouée entre Abimélec et Abraham au puits de Beersheba. Le texte dit « à lui est le puits », enfin, il y a eu une discussion, et finalement on a dit « le puits sera à celui pour qui les eaux monteront quand les bergers se rapprocheront du puits ». Donc, c'est Abraham. C'est à Abraham que ce puits, les eaux sont montées à ce moment-là, pour les bergers d'Abraham. Donc, cette montée des eaux est considérée comme une espèce d'arbitrage divin pour désigner le propriétaire du puits. Cela annonce le prodige qui va s'accomplir pour Israël à la sortie d'Égypte. Où Moïse va frapper ou parler au rocher. Un deuxième cas, c'est le cas où Eliezer et Rebecca se rencontrent au puits, et dans ce passage, il est dit que donc Rebecca qui va épouser Isaac, il est dit dans ce passage que Rebecca, je dirais l'arrivée de Rebecca, faisait que les eaux devenaient très abondantes. Un troisième passage, c'est Jacob et Rachel, qui est un passage, et c'est là que arrive Jacob, dans le chapitre 29 de la Genèse. On dit que Jacob arrive au puits, et que sur le puits, sur la bouche du puits, il y a une lourde pierre, et que donc il y a des bergers qui arrivent avec leurs troupeaux, et puis Jacob arrive, et en principe, on attend que tous les bergers soient là, parce que la pierre est lourde, donc il faut être plusieurs à soulever cette pierre. Mais, dit le texte, Jacob roule la pierre d'un seul bras, et le puits et les eaux jaillissent. Et les eaux de ce puits vont jaillir pendant toute la période, dit le Targum, donc la Torah orale, pendant 20 ans, toute la période où Jacob sera là, auprès des troupeaux de Laban. Et quand Jacob va partir, c'est fini, les eaux ne jaillissent plus. Donc, le jaillissement des eaux est lié à la présence de Jacob. Il y a encore un quatrième exemple, Moïse, qui est antérieur, Moïse qui arrive au puits de Madian et qui vient au secours des filles de Jéthro. Et à partir de ce moment-là, il est dit que le puits accompagnait Israël tout le long de l'Exode et que le puits est creusé par les patriarches et créé à l'origine du monde. Donc, il y a un lien entre Jésus et le puits de Jacob. Et les textes précédents, c'est la rencontre à la fois d'une femme et d'un homme auprès d'un puits, qui se retrouve tout au long de la Bible. Pour puiser sans corps de nisseau, il faut être comme Jacob, ou comme Abraham, ou comme Moïse. Et Jésus affirme indirectement sa supériorité sur Jacob, puisque l'eau que lui va donner va devenir source de vie éternelle. Donc c'est là, non pas une durée limitée du prodige, comme pour Jacob, mais une durée illimitée du prodige. Alors, ce texte fait de la Samaritaine, et ce commentaire fait aussi référence au texte de Jean, au chapitre 7, où ce sont les derniers jours de la fête, et en général, on pense que c'est la fête de Soukhot, la fête des cabanes, dont on peut reparler après. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et de son eau, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Donc il parle, comme dit le texte de Jean, il parle de l'Esprit Saint. Mais c'est encore une relation avec la Samaritaine. D'autant plus que d'après la Torah écrite ou d'après la tradition, il est dit que le rocher ou le puits, ou le rocher donnant de l'eau, comme il a fait pour Moïse dans l'Exode, ou le puits de Jacob accompagnait le peuple d'Israël tout au long de son exode jusqu'à la terre promise. C'était des eaux qui jaillissaient tout au long et qui abreuvaient le peuple d'Israël. Ça, c'est selon Rashi. Rashi qui est un commentaire, qui est un rabbi dans français, qui a vécu à... Troyes. Et c'est son commentaire à lui. C'est le rocher ou le puits qui accompagne et abreuve les 12 tribus d'Israël pendant leur périple à travers le désert. Une autre chose, peut-être, en revenant à Jacob, selon la tradition, où Jacob a-t-il trouvé la force, se pose la question, de rouler la pierre. Alors, dans le chapitre 27 de la Genèse, il est dit que Jacob a reçu la bénédiction de la rosée. Cette bénédiction de la rosée, c'est une réalité importante qui se retrouve notamment dans la deuxième bénédiction de la prière juive de la Amida, qui est associée à la résurrection des morts. D'après certains rabbins, l'interprétation de certains rabbins, dans le texte d'Ézéchiel, qui parle des ossements qui sont revenus à la vie, on dit que c'est grâce à la bénédiction de la rosée qu'a reçu Jacob. C'est une interprétation qui est intéressante, voilà. Voilà, je ne vais pas entrer plus loin. Oui, dans la tradition juive, enfin, c'est ce que je viens de dire, la rosée, c'est l'instrument de la résurrection des morts. Et que au moment où Élie a ressuscité la veuve de Sarepta, c'est grâce à la rosée et qu'après Dieu a demandé à Élie de lui rendre la clé de la rosée. Parce que d'après la tradition, ce sont des choses qui sont assez drôles, je trouve, qui sont bon. Dieu peut prêter 3 clés à l'homme. La clé de la vie et de la mort, la clé du sein maternel et la clé de la pluie ou de la rosée. Peut-être une dernière chose à dire à propos de Jacob. On parle quand il a donné la bénédiction à ses fils, on parle des yeux d'Isaac, quand Isaac a donné bénédiction à ses fils Jacob et Ésaü, on dit que les yeux d'Isaac s'éteignaient. Donc il ne voyait plus très bien, ce qui a permis le subterfuge. Dans la tradition rabbinique au sujet de la ligature d'Isaac ou du sacrifice d'Isaac, on dit que les yeux d'Isaac, au moment où son père allait le sacrifier, étaient fixés sur les anges. Que les anges, on parle d'un ange qui a arrêté la main d'Abraham, mais bon, dans la tradition, il y a plusieurs anges, et que les yeux d'Isaac étaient fixés sur les anges, et que de ce fait-là, il a perdu la vue, alors que les yeux d'Abraham étaient fixés sur Isaac. Je ne vais pas parler du reste, ça fait beaucoup de choses peut-être. Et je vais passer à l'icône où Jésus rentre à Jérusalem, qui est reprise dans les 4 évangélistes, chez les 4 évangélistes, et qui est repris aussi d'un texte de Zacharie. Voici que ton roi vient à toi, humble et monté sur une ânesse et sur un ânon. D'après un midrash, à 20 ans, l'homme est en quête d'une femme, il est fier comme un cheval. Marié, il est comme un âne, il doit trimer pour sa famille. La tribu d'Issachar, l'emblème de la tribu d'Issachar, c'est l'âne. Et l'âne est considéré comme ayant beaucoup d'ardeur à l'étude. Et c'est pour ça que c'est l'emblème de la tribu d'Issachar. L'âne porte le fardeau de la Torah. Il y a donc une relation particulière entre l'âne et le salut d'Israël. Dans l'Exode, au chapitre 13, il est dit que tout premier-né de l'âne, tu le rejetteras. Parce que les ânes ont beaucoup un rôle important lors de la sortie d'Égypte, parce qu'ils portaient tous les l'or et l'argent que les Hébreux ont emporté d'Égypte. Il y a donc une relation entre le rachat du premier-né dans le peuple hébreu et la sortie d'Égypte et le sacrifice des premiers-nés, c'est pour ça qu'on rachète les premiers-nés, rappelle l'extermination des premiers-nés en Égypte. Mais seul l'homme et l'âne échappent à la loi par ce rachat. Les autres animaux, les autres premiers-nés sont sacrifiés, sauf le premier-né de l'homme et le premier-né de l'âne. Il y a une inversion des signes quand on parle de Jésus. C'est l'âne est un peu le symbole de l'Égypte et l'agneau est le symbole d'Israël. Or, l'âne, le premier-né de l'âne, est racheté par un agneau. Dans le texte de la Genèse, Jacob demande de ne pas être enseveli en Égypte parce que il y a le risque du culte de l'Égypte, qui un culte vis-à-vis des idoles, en escomptant que l'agneau Jacob, Israël, pourrait racheter l'âne égyptien. Et donc le fait que Jésus vienne monter sur un âne pour entrer à Jérusalem, c'est très significatif. La première apparition de l'âne, c'est lors du sacrifice d'Isaac en Genèse 22. On voit qu'Abraham part avec des serviteurs et un âne qui reste à proximité avec les serviteurs du mont Moria pour attendre la venue du roi promis à Israël, c'est-à-dire celui qui va restaurer définitivement la présence divine sur la montagne de Sion. À ce moment-là, c'est l'assimilation du mont Moria à Sion, au mont Sion et au mont du Temple. On parle aussi, à propos de l'âne, on parle de Joseph et Marie qui sont partis avec Jésus en Égypte, montés sur un âne pour fuir la fureur d'Hérode. Mais déjà avec Moïse, il y a un âne lorsque Moïse descend en Égypte pour exécuter sa mission. Dans l'Exode, il est dit, Moïse prit sa femme et ses fils, les mit sur l'âne et rentra en terre d'Égypte. D'après Rashi, cet âne, c'est pas n'importe quel âne, c'est un âne déterminé qui est l'âne d'Abraham, qui est le fils de l'ânesse créée au crépuscule, l'ânesse de Balaam. Et donc, cet âne est le signe vivant de la continuité et de l'unité du plan divin. Ainsi dit la tradition, comme le premier rédempteur ainsi fera le dernier, comme a fait le premier rédempteur, ainsi fera le dernier rédempteur. L'âne est donc relié à la symbolique du Messie, comme le premier fit monter les eaux du puits, le dernier fera monter les eaux. Je passe à... combien j'ai de temps encore? Combien j'ai de temps?
5 minutes.
5 minutes. Alors je vais... Oui, ça va, je vais passer à notre... La dernière icône, ce sont les vendeurs chassés du temple. C'est aussi une icône qui n'est pas tellement souvent représentée, mais qui est très intéressante au niveau du sens du contexte. Donc après son entrée à Jérusalem, il est dit dans le texte, c'est aussi repris par les différents évangélistes, des aveugles et des boiteux s'avancèrent vers lui dans le temple et les guérit. Alors, pourquoi tout d'un coup, Jésus, après avoir chassé les vendeurs du temple, guérit des aveugles et des boiteux? Il n'est pas parlé d'autres. Dans le livre de Samuel et dans le livre de Lévitique, on doit écarter les aveugles et les boiteux. Il est dit dans Lévitique, quiconque a une infirmité aveugle et boiteux, etc., n'est pas apte pour offrir le sacrifice. Dans le temple de Jérusalem, lors des fêtes de pèlerinage, c'est-à-dire 3 fois par an, les hommes mâles montent au temple. Donc c'est la fête de la Pâque, la fête de Soukhot ou des tentes, et la fête des semaines. Dans l'Exode et dans le Deutéronome, on dit que ceux qui monteront au temple seront vus, verront la face du Seigneur ou seront vus par le Seigneur. On devait venir, lors de ces fêtes, venir voir Dieu dans son temple. Mais la tradition orale dit bien que Dieu est invisible. Donc l'homme devait se présenter pour être vu par Dieu et pas voir Dieu. Alors, c'est le mot. Donc, si on parle de verra Dieu, ce ne sont pas des aveugles. Et si on parle de monter pour voir, ce ne sont pas des boiteux. Parce que les fêtes de pèlerinage impliquent la marche et la vision. Donc, le premier geste de Jésus après la purification du temple, c'est de guérir les aveugles et les boiteux, qui sont 2 catégories exclues de l'obligation de pèlerinage. Ça nous renvoie aussi au don de la Torah, qui va dire l'inverse de cette tradition orale qui sont interdits, aveugles et boiteux sont interdits de monter au temple. Lors du don de la Torah au Sinaï, on dit qu'il n'y avait pas d'infirmes, ni de boiteux, ni d'aveugles. Car comme on l'a dit tout à l'heure, tout le peuple voyait des voix. Donc, il n'y avait pas d'aveugle, ni aveugle, ni muet, ni sourd, ni boiteux, ni sot. Car tout le peuple répondit, nous ferons et nous entendrons. Et ils se tenaient tous debout au pied de la montagne. Dans la tradition, il y avait des infirmes, évidemment, dans le peuple, mais Dieu les a guéris avant de donner la Torah. Parce que la Torah ne peut être donnée que si la créature humaine est d'abord restaurée dans son intégrité. Il y a, je me dis que ça fait référence à ce qu'on vient de faire au niveau de la sagesse du corps, il y a un rapport direct entre l'observance de la Torah et la santé physique. Et ça nous renvoie aussi au miracle de Jésus, qui guérit pour sauver, soulager les souffrances, mais qui guérit aussi pour restaurer l'être humain dans son intégrité, afin qu'il puisse rendre gloire à Dieu. Et ce fait qu'il puisse rendre gloire à Dieu, je trouve que c'est signifié de façon particulière dans la guérison des 10 lépreux. Il n'y en a qu'un qui rend gloire, mais ils étaient sans doute tous appelés à rendre gloire à Dieu après la guérison. Bon, je crois que je vais m'arrêter ici. S'il est l'heure. Ah non, mais
Dieu. Il est moins 20, c'est ça?
Ah, il est moins 20.
Moins
40. Et c'est 12.
C'est 12h40 qui est mis.
12h40. Ah oui. Ah oui. Mais... Donc 12h. Jusqu'à 12h. 12h jusqu'à 40. D'accord. Alors, tu dis? Oui, bah alors je ne vais pas, s'il va être temps de clôturer. Oui, bah je vais clôturer. Il y a une dernière icône qui est très peu connue, que j'ai découvert quand on était voir un musée d'icônes en Allemagne, qui est l'icône du berger d'Israël qui ne dort ni ne sommeille. Donc il est représenté un ange, Marie, et il y a un homme, disons un berger, qui est présenté comme couché. Il y a un psaume 121 qui dit « Quand Israël faute, Dieu fait comme s'il dormait. Mais quand il accomplit sa volonté, Dieu ne somnole ni ne dort. Non, il ne somnole ni ne dort le gardien d'Israël. » On a évoqué tout à l'heure le problème du mal et le problème du Dieu Tout-Puissant et les prières qui comportent ce Dieu Tout-Puissant. Alors, dans un article d'un rabbin, Rivon Krigier, il parle de repenser l'existence et la justice divine du Dieu Tout-Puissant au Dieu en puissance. Et il parle de la puissance divine, en quoi consiste-t-elle? La puissance divine, selon la tradition, c'est la retenue du pouvoir divin, ce qu'on appelle dans la Kabbale le Tzimtzum. Dieu s'est arrêté de créer au sixième jour. Il s'est retiré pour donner toute la place à l'homme. Parce que si on parle de la puissance divine et de la divinité, il occupe toute la place. Et s'il ne se retire pas, l'homme ne peut exister. Et c'est dans ce sens-là qu'il parle d'un Dieu à la fois en puissance, dans ce sens-là qu'il est capable de se retirer, que Dieu est capable de se retirer pour laisser la place à l'homme. Et la littérature rabbinique parle aussi d'un Dieu qui montre sa toute-puissance car il est capable de dominer sa colère en se montrant longanime envers le méchant, le pervers, etc. Et si on reprend ce que, quand les disciples ou les apôtres ont demandé un signe à Jésus, il a dit, le seul signe que je vous donnerai, c'est le signe de Jonas. Alors, quand on reprend le livre de Jonas, qui est un petit livre, qui est assez interpellant, parce que le signe de Jonas était tout même le signe d'un rebelle, hein, qui s'est révolté contre la volonté de Dieu à plusieurs reprises. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est la fin. Où finalement Jonas se rebelle contre la volonté divine qui veut se montrer longanime vis-à-vis des Ninivites. Donc, il n'accepte pas que Dieu soit miséricordieux vis-à-vis des méchants, disons, vis-à-vis des pécheurs. Et dans ce sens-là, au niveau du scandale du mal, la tradition a évolué, surtout au niveau après la Shoah, vers un Dieu qui serait seulement en puissance de puissance, en devenir et non accompli. Et alors, on fait référence à la théologie du process, que certains parmi nous connaissent. C'est un Dieu en dynamisme, c'est-à-dire un Dieu qui sera et qui n'est pas encore manifesté, un Dieu qui vient. C'est un peu dans le sens de Sermon sur la montagne, le royaume de Dieu qui vient. Il faut vouloir que Dieu soit. L'existence de Dieu, c'est un premier pas, mais il faut ensuite vouloir que Dieu soit. Alors, l'œuvre de la création et l'œuvre de la rédemption seront consommées. Et ça renvoie évidemment aussi au buisson ardent, « Je serai qui je serai qui tu me feras être ». Et dans ce sens-là, il y a notamment Hans Jonas qui dit « Dieu œuvre à la délivrance de l'homme, mais l'homme doit délivrer Dieu de son état d'impuissance où il s'est lui-même restreint ou astreint. » Et cette puissance de Dieu, c'est là que serait la puissance véritable divine.